Les jardinières.
Après de longues semaines d'absence, les jardinières sont au complet et de retour. C'est parti pour répondre à vos questions jardinage durant une heure en compagnie d'un professionnel de la branche. Raphaël est là aussi prêt à répondre.
Hein. Oui.
C'est vous le professionnel ?
Écoutez, si vous voulez, je peux essayer.
Oui, vous pouvez essayer. Bon, bonjour quand même.
Mais bonjour Mylène et bonjour à tout le monde. Plaisir de vous retrouver pour ces jardinières et bonjour à notre invité ce matin, c'est Tom le jardinier.
Bonjour.
Ah, j'ai ouvert le mauvais micro.
Voilà, oui, mais on l'a entendu. Bonjour Tom le jardinier.
Bonjour.
Tom le jardinier qui partage ses conseils jardinage et ses vidéos via les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur son site tomlejardinier.com. C'est une mine d'or d'informations en jardinage, mais également en cuisine.
Vous avez jusqu'à 8h pour poser vos questions à Tom, soit par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous envoyez ce message au 939 ou via notre site sous l'onglet émission, questions jardinières, avec la possibilité de joindre une photo. Et quel plaisir de vous retrouver.
Oh, oui.
C'est parti pour une heure de jardinage.
Les jardinières.
Tom, le printemps est désormais bien installé. Le confinement a probablement retardé le travail de bon nombre de jardiniers amateurs. Depuis lundi, les jardineries sont à nouveau ouvertes. Alors, dites-nous, Tom, par quoi commencer, mais surtout, est-ce qu'il est encore temps de planter ou semer des légumes ?
Alors, bien sûr que oui, il est le temps de semer les basiliques, les courgettes, les courges, toutes ces cucurbitacées qui rentreront dans nos jardins. Mais aujourd'hui, il y a aussi la possibilité de planter les premiers choux, il y a aussi les premiers légumes qui résistent un petit peu au gelé parce que mine de rien, les cinq glaces ne sont encore pas passées.
Le week-end, il est humide, on peut planter malgré la pluie, tout ça ou...
Alors,
encore patienter.
Oui, on peut planter. Le seul truc qu'il faut faire, attention, même s'il pleut, c'est quand même arroser parce que le premier arrosage a tendance à tasser la terre autour des racines et sans ce premier arrosage, c'est plus difficile pour les plantes pour reprendre.
Mais justement, après quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, pendant toute cette période de confinement, on a eu pas mal de beau temps, pas mal de sécheresse. Est-ce que finalement, cette pluie, elle n'est pas la bienvenue pour les plantations ?
Alors, elle est grandement bienvenue. Il y a même des interdictions, par exemple, pour des feux, je crois, dans le canton du Jura. Donc, elle est vraiment bienvenue. C'était presque un temps trop caniculaire, donc on est content qu'elle soit là.
Et puis, ça nous permet de rester encore un petit peu à la maison, cette pluie. Ça nous évite de sortir. Merci beaucoup, Tom. Pour poser vos questions, vous avez jusqu'à 8 heures pour le faire. Vous pouvez le faire par téléphone. 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et puis, si vous êtes un petit peu timide, vous avez l'option par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez tout ça au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site web sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et vous avez même la possibilité d'y joindre une photo.
Vous avez bien entendu, les jardinières sont de retour jusqu'à 8 heures. On répond à vos questions. D'ailleurs, on a déjà reçu pas mal de questions par SMS, par formulaire. N'hésitez pas, on est là pour ça. On va commencer par parler d'un cerisier. Bonjour, depuis 4 ans, dans notre maison, il y a 2 cerisiers. Malheureusement, nous n'avons pas pu profiter des fruits. Il y a encore quelques jours, les feuilles étaient magnifiques. Mais là, elles ont toutes des trous. Pouvons-nous traiter les arbres trop tard pour les fruits ? Merci beaucoup. Et puis, c'est une question qui nous vient de Linette de Linière. Et Tom, vous avez sous les yeux des photos de ce pauvre cerisier.
Alors oui, les feuilles sont bien criblées de trous. D'abord, je pensais à de la grêle, donc peut-être un truc qui peut être dû à la grêle. Mais visiblement, il y a aussi des petits dégâts au niveau de... Enfin, on retrouve des excréments d'insectes, donc ça peut être aussi une des conséquences de ça. Le conseil que je peux donner, c'est d'utiliser ma petite recette magique, c'est une décoction d'ail et de piment. Comme ça, si c'est quelque chose qui va pouvoir donner des maladies fongiques, ça va tuer tout ce qui est fongique, donc champignons et puis ail et piment combinés ensemble, ben, contre les insectes, ils préfèrent aller voir ailleurs parce que c'est trop fort pour eux.
Et comment vous préparez ça ?
Alors, c'est la question piège, parce que moi je le fais avec une casserole et je mets une tête d'ail complète dedans et 2 piments très fort dedans. Je laisse, je fais bouillir mon eau, je mets ça sur l'ail et le piment, j'attends une nuit que ça infuse, puis après, je mets un litre de ça dans 10 litres d'eau et je peux asperger mes arbres.
Donc on doit les pchit-pchit là, sur l'arbre.
Voilà. Ou alors, il y a des pompes à traiter où c'est qu'on traiterait avec les produits phytosanitaires traditionnels, mais avec des produits bio. On peut aussi les traiter avec du bio, avec ces pompes.
Ok, merci beaucoup Tom, parce que j'imagine les cerisiers, ce n'est pas des petits arbres. Hein.
Non, clairement pas. Et puis, il faut bien se tromper après la nuit de fermentation, hein, de ne pas le boire le matin au réveil. Bon, quoi que ça peut bien textes. Réveiller. Hein. Aïe, piment, je pense que ça doit mettre de bonne humeur quand même. On enchaîne avec une question que l'on a reçue pendant cette semaine de confinement encore. Elle nous vient de Martine de Delémont. Bonjour, notre mûrier est comme chaque année chargé de fleurs, puis de petits fruits. Problème, lorsqu'ils devaient arriver à maturité, les branches et les mûres sèches de la récolte est perdue. Quelle est donc cette maladie ? Il ne s'agit pas d'un manque d'eau. Merci d'avance de votre aide.
Alors, c'est probablement une maladie fongique aussi, parce qu'on voit sur ces feuilles qui sèchent comme ça assez rapidement, visiblement. Donc, la meilleure chose à faire, elle dit qu'il ne s'agit pas d'un manque d'eau, c'est déjà d'arroser au pied pour éviter que les feuilles soient mouillées la nuit et tout ça. Par contre, pour un traitement, moi je ferai aussi une décoction d'ail et de piment pour essayer de traiter les ronces. Mais cependant, si on a des mûres qui ont le goût d'ail et de piment, ça risque d'être un petit peu désagréable. Donc, faire attention.
Ça peut être un style.
Quoi. Il faut faire vraiment attention, faire ça dès la sortie du printemps, régulièrement, jusqu'à quand les mûres sont en fleurs. Comme ça, on éviterait d'avoir des mûres qui ont le goût d'ail, quoi.
Ça marche un peu pour tout, votre potion magique ail et piment ?
Alors, j'avoue que c'est un truc que je fais depuis maintenant 2-3 ans. Et vraiment, j'ai des solutions. C'est un petit peu ma solution miracle.
7h, 8h, les jardinières.
Et c'est le grand retour des jardinières en ce samedi 2 mai. Vous avez jusqu'à 8 heures pour vous lâcher et poser toutes les questions que vous avez accumulées pendant ce confinement à notre invité Tom le jardinier. Vous pouvez le faire par téléphone au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire également par SMS. Vous tapez jardin, un espace et votre question et vous nous envoyez le tout au 939 ou vous allez sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et là, vous pouvez même joindre une photo.
Nous avons reçu une question de Sylvie qui vit à Beauvais. Elle nous demande, enfin plutôt, elle vous demande, Tom, comment prendre soin des choux portugais au printemps quand ils font les fleurs ? Faut-il les couper ou laisser venir les graines ? Alors avant, pouvez-vous nous décrire un chou portugais peut-être ?
Alors moi, je pense que c'est ces choux palmiers là qu'on voit qui sont assez énormes dans les jardins. Malheureusement, quand ils viennent en fleurs, comme tous les choux, en fait, ils ont un cycle bisannuel. Quand il y a une période de froid et qu'ils reviennent chaud, ils vont fleurir. Donc voilà. Les fleurs peuvent se manger, donc on les coupe, on les passe à l'eau avec un peu de beurre et un peu de sel. C'est délicieux. Par contre, si elle veut récolter les graines, il faut impérativement qu'il n'y ait pas d'autres choux en fleurs dans son jardin, parce que sinon ça va faire des croisements et on n'est pas sûr de ce qu'on pourrait retrouver après.
Donc, d'autres choux portugais ou d'autres races
choux tout d'autres choux races. Tout court. Tout d'un coup, si on a des choux de 1000 ans, par exemple, dans son jardin, ben, il pourrait y avoir des croissements.
Ok, merci. Alors, Raphaël me prévient qu'il est...
Je suis là, je suis là avec Christophe de Glovelier qui a une question pour notre invité. Bonjour Christophe.
Et bonjour.
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 Bonjour, j'ai lu dans un journal que ce serait le moment d'entourer le tronc du pommier pour lutter contre le Carpocaps. Et j'aimerais savoir ce que ce carton ondulé tout simple pourrait faire pour piéger ce Carpocaps.
Alors le Carpocaps, c'est un papillon qui va voler dans les arbres et qui va pondre ses œufs dans les fruits. Le carton ondulé qu'on met autour des troncs, par exemple, les chenilles vont plutôt se réfugier dans ce carton ondulé, puis après on l'enlève et on le brûle, et comme ça, on n'a pas ces chenilles et ces petites larves dans nos pommes.
Voilà, mais à quel moment on voit qu'il y a ces chenilles dedans, là? Il faut aller regarder de temps en temps, alors.
Alors, il y a une formule mathématique, on appelle ça les degrés jour. Donc, c'est un petit peu technique. Il faut calculer les températures, à quel moment on le fait au printemps et tout ça. Mais je vous conseille de le faire assez tôt au printemps. Puis, vous remplacez régulièrement ce carton ondulé. Comme ça, on ne se casse pas la tête à faire des calculs. Mais c'est au début du printemps.
Bon, merci.
Merci à vous pour votre question,
merci
Christophe.
Beaucoup,
une toute belle journée à vous. Merci.
Bonne journée à vous.
Au
aussi,
revoir.
Merci, Christophe. On va enchaîner. On a encore le temps de poser une question à Tom. C'est une question de Monique qui vit à La Chaux-de-Fonds. Bonjour, j'ai toujours le même problème. Comment s'occuper d'une orchidée Phaleonopsis quand elle a défleuri? Merci d'avance et bon week-end.
Alors, Monique, pour votre orchidée, quand elle a défleuri, si la hampe florale n'a pas déjà séché, on va couper jusqu'au troisième. On voit sur les hampes florales, ça fait des petits bourgeons. On va sélectionner le troisième et on va couper au-dessus, à quelques millimètres au-dessus de ce bourgeon-là. Si la hampe florale a séché, on va enlever cette hampe florale. Il faut placer son orchidée Phaleonopsis au bord de la fenêtre. C'est le meilleur endroit parce qu'il faut vraiment beaucoup de lumière pour ces orchidées. Un conseil aussi, c'est pour les arrosages. On a tendance à oublier les arrosages sur ces plantes-là. C'est, on voit les racines quand elles deviennent grises. Eh ben, c'est le bon moment de les arroser. Moi, ce que je fais dans mon bac où c'est que je fais ma vaisselle, je le remplis d'eau et je plonge le pot transparent parce que les orchidées Phaleonopsis sont généralement dans ces pots transparents. Et quand je vois que toutes les racines sont bien vertes, je le sors, je le laisse égoutter avant de le remettre sur le bord de la fenêtre.
Merci beaucoup Tom et merci pour toutes vos questions que vous pouvez continuer à nous poser. Trois solutions par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez ce message au 939 ou vous passez sur notre site internet, vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières. Et si comme Christophe il y a quelques instants, vous souhaitez être en direct avec nous d'ici quelques minutes, c'est par le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Les jardinières.
Jusqu'à 8h, vous êtes en compagnie des jardinières. On cause jardinage et on répond à vos questions. Ce matin, c'est Tom le jardinier qui est là pour vous. Tom le jardinier que vous pouvez suivre sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram ou via son site tomlejardinier.com.
Et il vous reste un peu moins de 25 minutes pour lui poser vos questions, que ce soit en direct, par téléphone. Vous le faites en nous appelant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez l'option aussi SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières.
La suite, c'est avec une question de Véronique qui nous vient de l'Ajoux. À 1000 mètres d'altitude, peut-on planter un chèvrefeuille et si oui, quand? Elle vous remercie de votre réponse et vous adresse ses cordiales salutations, Tom.
Alors, pour le chèvrefeuille, il est résistant jusqu'à moins 21, moins 28 degrés. Donc, je pense qu'à la joue, même s'il fait froid, ça devrait passer. La plantation du chèvrefeuille, il faut faire attention. Moi, je conseille soit au printemps, soit à l'automne, plutôt à l'automne, parce qu'on a des étés de plus en plus caniculaires. Il faut un petit peu s'adapter aussi, le jardinier s'adapte. Et en plantant au printemps, il a tout l'hiver pour bien s'installer dans le sol, tout l'automne, tout l'hiver pour s'installer dans le sol, avant de l'avoir une année où c'est qu'il a affronté une canicule. Donc, plutôt à l'automne. Et puis, voilà.
Juste une question, on parle souvent des plantes qui résistent à des températures plutôt basses, voire très basses, comme le chèvrefeuille. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a des plantes qui ne supportent pas, par exemple, des chaleurs trop hautes?
Alors, il y a plusieurs. On voit typiquement le sapin, qui est une plante qui on voit plutôt en altitude. Donc, il y a des plantes aussi qui ne résistent pas à nos fortes chaleurs et surtout à la sécheresse, au manque d'eau, etc., etc.
Merci Tom. Raphaël, vous avez une personne au téléphone.
Exactement, c'est Sophie qui a une question pour notre professionnel de ce matin. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
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 Allez-y, posez votre question à Tom.
Donc, j'ai des orchidées, énormément d'orchidées, et puis j'ai de la cochenille farineuse dessus. Comment m'en débarrasser?
Alors là, il faut être très précautionneux. S'il y a possibilité, comme vous avez l'air de dire qu'il y a beaucoup de cochenilles chez vous, de faire aussi une quarantaine hein, pour vos orchidées.
Ça, la mode.
C'est dans le thème.
Pour éviter qu'elles aillent partout. Alors, la première chose, c'est d'isoler celles qui pourraient être déjà contaminées pour qu'elles ne contaminent pas les autres. Et puis là, il faut y aller au Q-tips avec un petit peu d'alcool à brûler. Et puis, aller entre les feuilles délicatement rechercher ces orchidées, ces cochenilles plutôt, pour éviter que. Et comme ça, les enlever comme ça. C'est le meilleur moyen, j'en connais pas d'autres, pour que ça aille vraiment chercher parce qu'elles vont dans l'interstice entre les feuilles. Donc, c'est la meilleure chose à faire.
Oui, ok. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à m'en débarrasser. J'ai déjà traité une fois avec du produit chimique, on va dire. Et puis voilà, ça revient, elles reviennent.
Moi, j'ai juste une précision pour vous. Tom, vous dites qu'il faut les isoler, les mettre en quarantaine, mais il faut les espacer ou carrément les mettre dans d'autres pièces.
Je conseille vraiment dans d'autres pièces parce que comme ça, ça peut circuler un petit peu avec l'air. Hein, ça fait des petits œufs qui peuvent circuler avec l'air. Donc, séparer de pièces, ça serait presque le mieux.
D'accord. Ouais, parce que j'en ai une bonne trentaine d'orchidées. Puis j'en ai... à peu près 5-6 qui ne sont pas contaminés. Donc voilà, je vais enlever mes 5-6 en bon état et puis les isoler. Et puis on va attaquer aux autres.
Un autre truc qui pourrait aussi un peu fonctionner, c'est les passer à la douche avec de l'eau tempérée. Et puis, essayer de les enlever comme ça. Parce que, moi, généralement, ces produits phytosanitaires un peu toxiques, moi, j'essaie de les éviter, surtout dans nos intérieurs. Parce qu'un petit peu de... par exemple, on est en hiver, il y a les radiateurs en dessous, ça fait vite des vapeurs toxiques. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir ces vapeurs toxiques dans nos intérieurs.
D'accord.
Merci beaucoup, Sophie, pour votre appel ce matin.
Merci beaucoup.
Et une toute belle journée à vous.
Oui. Juste une chose... Donc, si elles reviennent, je les refais régulièrement tous les temps de temps.
Il faut, dès qu'on les voit, c'est le meilleur truc avec un coton-tige imbibé d'alcool à brûler, et puis aller les récolter comme ça.
D'accord, ok, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Sophie. Merci. Une toute belle journée à vous. Merci, au revoir.
Merci, bonne journée.
Piment, alcool à brûler, Tom, plein d'astuces ce matin.
On va essayer d'être, avec parcimonie, utiliser ces produits toxiques. Il y a d'autres alternatives, il faut un peu les mettre aussi en valeur, parce qu'on ne les trouve pas forcément dans nos jardineries. Souvent, c'est des produits qui peuvent être un petit peu cachés, donc il ne faut pas hésiter à les demander. Et puis, on a des solutions, le purin d'ortie, de prêle, de consou, d'autres un peu potions magiques comme ça qu'on peut mettre en valeur aussi.
Merci beaucoup, Tom. On va faire une pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite des jardinières.
7h, 8h, Les jardinières.
Les jardinières sont avec vous jusqu'à 8h. On attend vos questions par téléphone, comme l'a fait Sophie il y a quelques minutes, au 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Par SMS également, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire, ça se passe sur notre site internet sous l'onglet émission. Question aux jardinières, comme l'a fait Carole.
Raphaël. Exactement. Bonjour, j'ai une plante verte, un Schefflera, et je l'ai depuis 24 ans déjà. Depuis quelques mois, ses feuilles ont une matière collante dessus. Celle-ci coule par terre et j'ai remarqué des petites taches sur toutes ses feuilles qui s'enlèvent avec un papier mouillé, mais il y en a sur toutes les feuilles. Est-ce que ce sont des pucerons? Et si oui, comment les enlever? D'aimer, je les mets dehors. Merci de votre réponse. C'est très précis au moins. Et il y a la photo qui va avec, Tom, qu'on vous a transmis.
Oui, j'ai vu la photo. Alors, il est possible, parce que la photo n'est pas ultra explicite, que ce soit de la fumagine. La fumagine, c'est un champignon qui va s'installer sur les déjections d'autres nuisibles, par exemple des pucerons ou des cochenilles, on en parlait tout à l'heure. Donc, comme visiblement son Schefflera est une grande plante, elle peut gentiment le sortir la journée, surtout par ces temps, c'est qu'il fait encore pas trop beau, pour éviter qu'il ait des coups de soleil. Donc, on le sort et on le rentre le soir. Et puis, pour traiter et éradiquer ces pucerons ou ces cochenilles, là, j'utiliserai le jet d'eau. Et puis, on y va avec un bon jet d'eau. Ça va déjà faire partir pas mal de ces ravageurs. Après, ben, s'il faut le nettoyer, il faut y aller effectivement avec un papier suie-tout et nettoyer toutes ces feuilles. Et puis là, il n'y aura plus de fumagine. Et comme il n'y aura plus ces pucerons et ces cochenilles, on aura évidemment moins de ce champignon qui revient.
Merci pour toutes ces précisions. Tom, on a reçu une question de Steve ou Steve, désolé pour la prononciation, de Moutier, qui nous dit « Bonjour, j'aurais aimé savoir quand je pouvais planter des bulbes de lys et de dahlia sur ma terrasse, ainsi que mon framboisier. Merci beaucoup et un très bon week-end. »
Alors, pour les lys et pour les dahlias, il peut gentiment y aller, il les met en pot. Et s'il y a des nuits qui s'annoncent fraîches, comme les seins de glace ne sont encore pas passés, il peut gentiment les rentrer. Et comme ça, il va un petit peu hâter la floraison de ses lys et de ses dahlias. Pour le framboisier, il peut déjà y aller en pot. Maintenant, lui, framboisier chez nous, passe l'hiver dehors sans problème. Donc, il peut le mettre en pot et y aller gentiment.
En pot, il va résister au gel de l'hiver. Il vient de Moutier. J'imagine Moutier, 400 mètres d'altitude peut-être.
Alors oui, le principal problème, c'est que quand on a une plante en pot, le froid peut l'attaquer par tous les côtés, par-dessus, par-dessous. Tandis que si la plante est en pleine terre, le froid l'attaque que par le dessus. Donc oui, ça va résister au gel, mais éventuellement une petite protection, mais j'y ai même pas trop besoin.
Merci beaucoup Tom pour vos précisions. On enchaîne parce que vous êtes déchaînés, on voit que les jardinières vous manquaient et ça nous fait énormément plaisir ce matin. Une question d'Agnès de Tavannes via notre formulaire sur le site web. Bonjour, j'aimerais comment éliminer les grillons dans le jardin et les champignons en automne dans le gazon. Merci beaucoup et prenez soin de vous.
Alors, pour les grillons, avant d'éliminer un insecte et tout ça, il faut déjà se poser le pour du contre. Est-ce qu'il fait des dégâts? Est-ce que ça peut poser problème? Je pense pas trop, hein, donc il faut peser le pour du contre. Et puis ça fait des jolis bruits, hein, on se croirait en Provence. Et puis, on a un bon imitateur de grillons.
Ah ouais, je suis au taquet.
Et puis, sinon, pour les champignons... Là, je ne crois pas connaître de solution naturelle qui serait efficace.
Alors moi, j'en ai une. Les enfants. Ils adorent marcher dessus ou les arracher. Donc, je les prête si jamais besoin. Pas de problème.
Il faut les louer, Mylène.
Oui, je peux.
Au moins faire des bénéfices.
Ce que je peux conseiller aussi, c'est éventuellement de faire une bonne scarification dans le gazon. Donc c'est une espèce d'outil qui va aller aérer le gazon et enlever toute la mousse et ce genre de choses-là qui peut s'installer dans le gazon.
7h, 8h, les jardinières.
Le temps file et il va gentiment être l'heure de se quitter. Mais avant, passons à notre traditionnelle question de fin d'émission. Ce matin, nous avons parlé cerisier, chou portugais, potion magique à base d'ail et de piment. Tom, qu'est-il possible de faire au jardin ce week-end?
Alors, il est possible d'aller visiter plein de jardineries. On va trouver plein de plantes, de plantons de légumes et tout ça. Et on peut déjà les planter au jardin. Je ferai une petite exception parce que nos seins de glace ne sont encore pas passés. Hein, on est plutôt sur la mi-mai. Donc, tous les légumes qui vont rentrer dans la ratatouille, le poivron, la tomate, l'aubergine, tout ça, on va encore attendre un petit peu avant de les planter. Et puis après, côté fleurs, on peut commencer gentiment à mettre les annuelles pas trop frileuses. On peut aussi faire plein de semis d'herbes aromatiques, etc., etc. Les premières tontes de gazon, on peut récupérer les tontes pour pailler nos jardins. Ça va avec nous les étés de plus en plus caniculaires qu'on a, donc protéger aussi un petit peu les sols de faire trop d'évaporation et du coup moins arrosé. Et ce samedi de mai, c'est une journée particulière pour nous les jardiniers. C'est la journée internationale du jardinage nu, donc jardiner à poil malgré la pluie.
J'allais justement y venir.
Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous allez jardiner?
Moi, j'ai beaucoup de travail à faire, donc non.
Bon, c'est la journée du jardinage.
La World Naked Gainering Day qui a été créée en 2005. Hein. Voilà.
Et puis, je rajouterai, puisqu'il pleut et tout ça, s'il y a des plantations, faites attention aux limaces.
Pas glisser dessus.
Merci beaucoup.
On a encore une minute.
Oui,
Mylène,
faites-vous plaisir.
Bah, je vais justement rebondir sur la limace.
Ah, j'ai cru que vous alliez rebondir sur autre chose.
Non, les limaces, Tom, c'est un calvaire hein, pour le jardinier. On nous propose mille choses. Moi, je me souviens à l'époque, on mettait ces petits granules bleus où on nous allait les couper en deux, enfin des choses atroces. Mais les limaces qui mangent nos salades, que faire?
Alors, les limaces, c'est les escargots aussi, hein, faut pas les oublier ceux-là. ils peuvent attaquer nos légumes, certes, mais ces petits granulés bleus, certains sont avec ils peuvent aussi attaquer le chien, le chat, le hérisson s'ils se baladent dans le jardin. Donc il faudrait éviter d'en mettre, et si on en met, bien lire les emballages, parce que souvent ces granulés au phéromone, eh ben on en met des barrières, on voit des jardins complètement bleus, alors qu'il faudrait généralement une cuillère à soupe pour un mètre carré. Donc on est loin des dosages qui sont indiqués sur les paquets. Donc, ce qu'on peut faire naturellement, c'est placer aussi... Moi, j'ai des barrières dans mon jardin, enfin des planches de culture. Donc, elles sont entourées de planches. Et là, on peut mettre un fil en cuivre. Comme ça, les limaces ne peuvent pas passer par-dessus. Et on n'a pas d'attaque de limaces. Aussi, les paillages, en ayant bien regardé qu'il n'y en avait pas au-dessous avant de mettre le paillage, évite les limaces, les coquilles d'œufs, etc., etc. Et puis, il y a la technique de la planche à patates. Donc, on met une planche à pommes de terre et on met une planche, on cache 3-4 rondelles de pommes de terre dessous. On attend le lendemain matin, on soulève la planche, puis on verra, il y a plein de limaces dessous, puis on va les mettre dans un champ un peu plus loin. Elles dérangeront moins que dans nos potagers.
Ou dans le poulailler. Merci.
Merci beaucoup, Tom, le jardinier qu'on renommera Panoramix pour cette journée, hein, avec toutes les petites astuces et tous les bons plans. Un vrai druide. On rappelle que vous êtes l'auteur du site tomlejardinier.com et qu'on peut vous suivre via les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour cette reprise. Passez un tout bon week-end, peut-être tout nu. Et à tout bientôt, Tom.
À tout bientôt.
La semaine prochaine, c'est Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy, qui sera parmi nous. Et si vous avez des questions, n'attendez pas samedi prochain pour nous les poser. On se retrouve donc la semaine prochaine dès 7h. Bon week-end.
Bon week-end.
Prenez soin de vous et des autres.
7h, 8h, les jardinières.